It had been 22 years since Dan and Tom last met, since they shared a desk in maths and played football together at lunchtime. 22 years with nothing more than a few Christmas cards and an online friend request to show for it. A 21st century eulogy for the loss of a once great friendship. Until a chance meeting outside the corner shop. On a morning, they both decided to ditch the car and walk instead. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.
Vous écoutez
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct comme tous les soirs, bien sûr, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News à la télé, dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore. Avec l'équipe du mercredi soir. Et oui, mercredi, c'est le jour des enfants. Alors, Pierre Ducrot est là. Salut Pierre.
Bonsoir. T'arrives à te souvenir des équipes encore le lundi, le mardi, le mercredi,
ben
le jeudi.
Ouais, attends, c'est quoi, c'est ça le coaching.
Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est beau parce que ça change.
Ça va Pierre?
Tout va bien, pleine forme.
Daniel Ariolo, bonsoir.
Salut les amis.
Et je vous demande d'accueillir comme il se doit la nouvelle star d'RMC Sport, Laure Le Payeur.
Salut à tous.
Salut Laure.
Bientôt Laure sera plus présente que moi.
Bah non.
Est-ce que c'est bon signe?
Pour elle, certainement.
Pour Laure, oui. Bah. Mais peut-être pour toi aussi, Daniel.
Tu veux dire que j'ai besoin de repos?
Non, mais des fois, il faut créer le manque.
Eh oui, Daniel.
Eh oui, Daniel. Tu crées un peu le manque et tu reviens plus fort.
Ça, c'est ce qu'il faisait à l'époque au PSG.
Oui,
petite
Pierre,
blessure bien placée.
Voilà, et là, tu revenais fort.
Le problème, c'est que j'ai peur que sans moi, ça crée plutôt des souffrances.
Ouais, mais ça, c'est pas ton problème, toi. C'est.
Ouais, voilà,
réagis individuellement.
Je veux pas que.
Non, il reste fidèle.
Le football français a besoin de moi.
Alors, messieurs, dames, tout à l'heure, Jérôme Rotten sera là également, Julien Cazard, tout comme Simone Rovera et Julien Laurence en Italie et en Angleterre. Plusieurs événements ce soir. Un. L'OM, parce qu'il se passe plein de choses. Évidemment, la blessure de Thauvin est très importante. On va en débattre dans quelques instants, les conséquences de cette blessure notamment. On conclura tous ensemble la trêve internationale avec nos drôles de dames pour faire un petit état des forces en présence. On voulait le faire hier soir, on n'a pas eu trop le temps, il n'y avait pas un after.
Moi, je venais plus le lundi pour pas voir les drôles de dames, je me retrouve avec les drôles de dames le mercredi. Quoi.
Oh. Arrête d'être tout centré comme ça sur toi-même, sur ta Ligue 1 et ta Ligue 2 et ton national.
J'adore.
Il y a aussi du football ailleurs, mon petit.
J'adore
Pierre.
Julien, j'adore Simonet, j'adore Fred, tous.
Et puis troisième événement, la journée à la Ligue de rencontres entre ultra et associations qui luttent contre l'homophobie avec Nathalie Bois de la Tour, Didier Quiot, tout le monde qui était présent. Le feuilleton continue. On en a parlé longuement.
On va avancer les choses, c'est bien.
On en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Et puis voilà. Et puis c'est à peu près tout. Enfin, ça fait un sacré programme quand même jusqu'à minuit. Vous allez le voir avec pas mal de petites surprises également. Évidemment, le quiz, les cadeaux qui vont tomber comme tous les soirs. Donc restez bien à l'écoute avec nous au 32-16 pour débattre sur le hashtag RMC Live sur Twitter si vous voulez nous envoyer des messages. Et puis sur Direct Studio concernant les cadeaux, vous connaissez le principe. Hein, c'est le grand jeu de la rentrée sur RMC toute la journée et particulièrement dans l'after. On a encore des téléphones portables, on a encore des PC. On a encore qu'est-ce qu'on a encore des home cinéma.
Okay.
Bref, plein de choses à gagner. Donc ouais. vous envoyez RMC par SMS au 732-16 dès maintenant. Vous avez une bonne heure là pour jouer. Le vainqueur sera avec nous tout à l'heure. Mais toi t'as pas le droit.
Ouais, pourquoi?
Je vous ai déjà un téléphone, un PC et un home
cinéma. Non, j'ai pas de home cinéma.
T'as pas de home cinéma?
Non. Je regarde les matchs de Ligue 1 en stéréo.
T'as été footballeur ou pas toi?
J'étais.
Il a mangé tout l'oseille, il n'y a plus rien.
Ou alors il veut le home cinéma pour ses enfants en fait.
Peut-être.
Non, parce qu'il regarde la télé sur la même télé que moi. Donc. Non.
On a également du handball, messieurs, dames, ce soir. Le championnat du hand avec un derby. Un derby historique du hand français. Nîmes-Montpellier. Et oui, gros derby au handball aussi. Il n'y a pas que le foot. Julien Andry, bonsoir.
Bonsoir à tous, exactement. Ça fait partie des places fortes du handball français. Et puis c'est aussi les retrouvailles entre Michael Guigou, qui porte maintenant les couleurs de l'USAM, et Montpellier, lui qui a tout gagné avec Montpellier, qui est parti finir sa carrière du côté de Nîmes. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 10-7 pour les Nîmois, avec 2 buts notamment pour Michael Guigou, acclamé par les 4000 supporters du Parnasse. À chaque fois qu'il touche le ballon, même si Lazego vient de faire une parade, le portier croate et qui peut permettre au Montpellierin de revenir à 2 buts. 17 pour Lussam, il reste 5 minutes à jouer dans cette première période.
Voilà, championnat de France de handball que l'on suit sur RMC. On parle de l'OM tout de suite, messieurs dames. Et oui, coup dur pour Marseille. Alors hier soir, c'était un murmure, une rumeur, mais ça s'est confirmé définitivement aujourd'hui. Florian Thauvin va se faire opérer de la cheville. Il sera donc absent tout le reste de l'année 2019. L'année 2019, c'est pas l'année de Thauvin, hein, mine de rien, l'année civile. S'entend.
S'il est blessé jusqu'en décembre, le temps qu'il revienne, ça peut même être un petit peu plus long quand même.
Quelles conséquences pour Marseille? Évidemment, avec cette blessure, le coup d'avoir pris Rogier comme joker. Bon, bah, peut-être que.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joker.
Bah, voilà. Donc, tu te le reprends un peu comme un boomerang, quoi. Cette négociation non terminée avant minuit, le 2 septembre.
Ou un joueur libre.
Un joueur libre.
Non, tu peux pas jouer à joker médical.
Tu peux pas du tout?
Non.
C'est joueur libre.
Non, c'est juste pour les gardiens, je crois, les jokers médicaux.
Tu vas trouver un Thauvin libre sans contrat, c'est pas facile. Hein.
Évidemment, le nom qui est immédiatement tombé, le seul joueur libre, il y a un peu des masses.
Ah oui.
Ah ouais, si, il y en a des masses, mais il n'y en a pas non plus des hyper sexy.
Mais qui correspondent au poste aussi.
Une liste.
Bah, écoute, il suffit d'aller sur le site de l'UNFP. Là, tu as la liste des champions.
Pourquoi tu n'appelles pas les mecs de l'UNFP? Ils vont te vendre tout ça bien comme il faut. Hein. Les joueurs au chômage, là.
Bah, t'as même droit à une aide de l'UNFP quand tu prends un joueur au chômage.
Donc, c'est-à-dire?
Ah bon, prendre un joueur du calibre quand même de Thauvin, ça va pas être.
L'UNFP peut salaire, participer. Et... Non, mais alors attends, une partie, Gilbert.
Ménageur chez lui.
Non, mais rigolez pas, c'est vrai. Alors, c'est en général, c'est pas avec les clubs de Ligue 1 que ça se passe, mais des clubs de National ou parfois de Ligue 2 qui veulent engager des joueurs libres ont une petite aide de l'UNFP. Ouais, véridique.
D'accord. Ah bon.
T'as une enveloppe qui est calculée sur une proportion par rapport au salaire.
Très bien.
Voilà. Bon. Dans cette affaire, ce qui est quand même.
Ah, ça aide parfois à prendre des joueurs, notamment au niveau national.
C'est évidemment dommageable d'abord pour le joueur, ensuite pour le club.
Tiens, j'ai la liste là. Vous voulez à quel poste? Au poste de Thauvin?
Au poste de Thauvin.
Je cherche les milieux offensifs.
Mec de côté, quoi, un peu.
Chaouki Ben Saada.
Ouais, ça colle. Mmh. Ça colle, c'est mon poste.
Ouais.
C'est... Okay.
Bon, j'ai Étienne Didot, tiens. Je ne savais même pas qu'il est à cette
liste. Pas le poste.
Mais c'est pas le poste, effectivement. Bon, je vous passe les. Je vous donne les plus connus, là. Hein. Je les découvre en même temps que vous. Johan Gourcuff.
Il est sur la liste.
Il est là, il est sur la liste. Yann Jouffre, l'ancien de Lorient.
Il a pas de club, lui.
Yann Caramo.
C'était plutôt.
Oui.
Maintenant, c'est, je sais pas quel âge il a, mais.
Mais tu sais que si tu lis la liste, amuse-toi à la lire, tu vas être surpris sur certains joueurs.
Qu'est-ce qui est au fond de faune? Attaquant, lui, ça compte pas. Joris Marvaux.
Et moi, j'aime bien, c'est un bon joueur. Hein.
Mais explique-moi.
Problème de genou, Billy.
Il était en fin de contrat à Angers.
Marvin Martin, dis donc. Marvin Martin n'a plus de club.
Il est en retraite.
Ça, c'est les mecs très souvent, ce sont des mecs qui ont été alors soit qu'on subit des blessures,
Marseille, pas le même poste, pardon.
Qui jouent, qu'ont pas joué une ou deux saisons, qui ont joué très peu de matchs et les clubs veulent plus prendre le risque de relancer ces joueurs-là. Et ça arrive très très vite, plus vite que ce qu'on le pense.
Ah ouais. Voilà. Là, je vous ai donné.
Et après, la seule solution, c'est que tu fasses un gros effort ou sur le niveau ou sur le salaire. Et parfois, certains joueurs sont pas prêts à le faire tout de suite, donc ils attendent.
Jérôme Rotten, l'autre jour.
Il y a aussi Jérémy Ménage. Bah,
Jérôme Rotten, tu vas pas le remettre sur le Marseille, Jérôme Rotten.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Jérôme Rotten nous disait la dernière fois que effectivement Ménage était revenu du Mexique et n'avait pas de club. Post-Thauvin, Ménage. Mm-hmm. Voilà.
Ouais.
À droite,
là, comme ça, là.
Bon, écoute,
c'est un joueur offensif, quoi, mais à droite.
Ça pourrait coller. Ménage gratos, Marseille, pourquoi il le tenterait pas?
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi il le tente pas? Après les états de forme, on les connaît
pas. Ben Saada n'est plus libre, il a signé à Bastia, qui joue désormais donc en National.
Donc tu dis, c'est des mecs, mais un mec comme. Enfin, je sais pas, il y en a certains. Quel risque tu prends en fait? Le mec, il a pas de club, il va pas être gourmand au niveau du salaire.
Bah, peut-être que si, quand
tu
même.
Négocier les primes,
t'en as certains qui. La première année où ils sont au chômage, t'en as certains qui le restent un petit peu gourmand. Et puis t'en as surtout qui trouvent rien, je te jure. Lis la liste, tu vas être surpris qu'ils restent sur le carreau, parce qu'ils ont pas joué depuis un an ou deux, quoi. Ou très peu, tu vois, ils ont fait 5-6 matchs par an.
Je suis étonné, quoi, dans les clubs, t'as certains gars, tu te dis, ils pourraient avoir leur place, quoi.
Bah, ouais. Moi, je suis surpris de voir Marvin Martin dans cette liste.
Mais Martin, ça fait des années qu'il joue.
Bah, c'est ça le problème.
Mais après, le problème, c'est ça, des Lucien.
C'est que partout où il a été, il a de moins en moins joué.
Il n'y a plus de mecs, il n'y a plus de clubs qui jouent avec ce genre de joueurs-là. Aujourd'hui, Martin, clairement, ça remonte à quoi? À plus de 9 ans.
Pas qu'il joue plus.
Sa grande année, c'est 2011-2012 là.
Ouais, peut-être pas 9 ans quand même, mais non. Ouais, moi j'aurais dit non, ça fait 5-6 ans qu'on le voit plus régulièrement.
Non, mais c'est pour ça que je dis 2011 et 2012. Quand il éclate, c'est les fameux matchs amicaux un an avant l'Euro.
Ouais.
Ouais, bah donc c'est plutôt 2009-2010.
Ça, ça fait 6-7 ans quoi, que tu ne vois plus à un très bon niveau.
Printemps 2011 en fait. Bah, bon bref.
Ça fait dans les 8 ans. Quoi. Donc là, je peux comprendre, tu ne lui fais pas confiance, tu dis c'est mort. Menez,
les mecs attendent souvent aussi quelque chose à l'étranger pour Menez, les mecs.
S'il, s'il arrive pas à cramer avec 10 kilos de trop, ou on apprend
qu'il s'est pas du tout entraîné et tout,
si le mec il s'est un peu entretenu, tu le fais bosser un mois, mets-le dans ton effectif, quoi.
Mais il faut voir aussi le salaire qu'il veut.
Il a rien. Mec, il a rien.
C'est quoi, Daniel? Parfois, là, on parle de l'OM, donc c'est un bon club de Ligue 1, etc. Donc, forcément, s'ils appellent du monde, ils vont trouver quelqu'un, mais. Pour ces joueurs-là en fin de contrat, souvent, quand tu proposes des clubs, le club ne leur dit rien aussi aux joueurs. Des joueurs qui sont passés par des bons clubs, tu leur proposes un club de Ligue 2, mais un coin paumé en France, etc. Ils n'ont pas envie d'y aller. Ils préfèrent attendre que ça bouge à l'étranger.
Il a eu des gros contrats.
Oui, mais par contre, le Olympique de Marseille, c'est différent.
Si le mec, il n'en veut pas, il n'en veut pas. Je te dis, est-ce qu'aujourd'hui, l'OM ne peut pas proposer à un mec comme ça? On négocie un salaire, je ne sais pas, mon nombre de matchs joués. Retape-toi pendant 15 jours, là, fais un peu de foncier. Mets-le dans ton effectif.
Qu'est-ce que ça te coûte juste... enfin, 15 jours.
Je ne sais pas.
Tout de même, j'ai Jean-Mich, mais vous souvenez de Menez à Bordeaux? Une catastrophe.
Ouais, c'est vrai.
Oui.
Non, c'est vrai.
Vaut peut-être mieux miser sur un jeune joueur, à la limite de la formation.
Ouais, mais
pour lui donner du temps de jeu.
Encore faut-il qu'il l'ait, quoi.
Alors,
Yadji.
En fait, le pire, c'est que Menez à Bordeaux, je crois que j'en ai aucun souvenir.
Bah, c'est bien le problème.
Je ne sais même pas qu'il est lui avec le maillot. Tu le vois avec le maillot bleu?
Non, je m'en souviens plus.
Je n'arrive pas à le voir.
Caramo, c'est pas non plus une catastrophe.
Ça peut.
Alors, rapidement, bon, bref, Thauvin, oui, revenons quand même à ça, parce que c'était l'information principale quand même. C'est comment on fait maintenant à Marseille, quoi.
Ouais, mais, ok, comment tu fais? Mais d'abord, je disais dommageable pour le joueur, machin, pour l'OM. Comment les mecs, tiens, mois d'août, ils font quoi les médecins?
C'est ça.
Tu peux pas savoir, j'ai mal à la cheville. Comment tu peux te retrouver dans cette situation début septembre, au moment où tu ne peux plus trouver de solution de remplacement? Ouais,
après, là-dessus, Daniel, je réponds.
Non, mais il y a une histoire de rechute sur Thauvin.
Ouais, voilà. Parfois, il a rechuté. Enfin, tu le sais, pour n'importe quoi, il n'y a pas que pour les footballeurs.
Oui, mais tu sais qu'il y a une fragilité. Il y a une fragilité. C'est-à-dire que dans ton protocole, peut-être qu'au départ, c'était bénin, mais finalement, ça dure quand même depuis un petit moment. Il a peut-être eu l'option au départ, dire que, voilà, par des soins, on va réussir à faire cicatriser cette cheville. Soit tu te fais opérer, soit tu reviens, mais tu dois l'anticiper.
Tu peux pas juste quand même, rappelez-vous, une rechute quand t'espères, quand le protocole prévoit une reprise.
Mais ça dure depuis un petit moment quand même.
Décider si oui ou non t'allais te faire opérer. Je trouve que parfois on tarde beaucoup dans ces décisions-là.
Peut-être que c'est non et parce que tu vas pouvoir.
Mais du coup, peut-être que tu fais rongier beaucoup plus tôt. Et que
Rongier, ça dépendait pas de Thauvin du tout, ça dépendait de Gustavo.
Ouais, enfin,
ça,
c'est ouais mais bon, moi je trouve que la gestion de son dossier n'a pas été terrible non plus, quoi.
Manque d'anticipation.
Donc vous ne voulez absolument pas laisser une chance à mes infos.
Si, vas-y.
La première blessure, ça date d'il y a 4 mois. Vous en souvenez, c'était au championnat. Il a rechuté un mois plus tard face au Glasgow Rangers, rappelez-vous. Donc match amical. Ensuite, il reprend l'entraînement avec des douleurs, mais là, souvent, tu reprends avec des douleurs parce que bon,
tu te dis.
Ouais, tu fais une ou deux infiltrations et puis tu te dis, je vais revenir.
Il participe au match de l'OM face à Saint-Etienne, faut s'en rappeler.
Ouais, il est rentré.
Voilà. Sauf que derrière, il ressent encore des douleurs, donc là, reconsultation. Et c'est là que les médecins. Moi, je pense pas qu'il y ait une faille médicale. Je pense qu'en fait, on a appliqué un protocole comme on l'applique pour n'importe qui. Sauf que ça peut arriver.
La question n'est pas la faille médicale. Enfin,
imagine,
c'est l'anticipation plutôt.
Alors, imagine, on anticipe comme vous le voulez et on fait venir quelqu'un. Parce que si tu fais venir quelqu'un pour remplacer Thauvin, il faut que ce soit quelqu'un de quand même relativement correct.
C'est ça que je
et Thauvin, tout se passe bien dans le protocole, il reprend.
C'est pas dans ce sens-là.
On va dire.
Souvent, aussi bien pour la partie joueur que pour la partie club, l'opération est un dernier recours. On attend. On a attendu extrêmement longtemps Paris avec Verratti.
Oui, ça, c'est souvent pour les pubalgies notamment, c'est souvent le cas.
Neymar, quelque part, on est un peu dans ce genre de cas de figure.
Il s'est fait opérer directement, lui.
Son histoire de pied, on n'a pas fait exactement l'opération.
Ouais, il y a eu un intervention chirurgical, mais il y avait différentes.
Parce qu'il y a trop de versions par rapport
à. Résultat, il s'est reblessé au même endroit. Et encore aujourd'hui, la vraie grosse opération.
Je pense
qu'ils ne l'attendront plus maintenant, parce qu'il a 27 ans. Et si ça doit être genre un truc de 6 mois ou un truc dans le genre, c'est un gars qui est parti pour jouer toujours un peu blessé avec cette fragilité-là et avec le risque que
ça pète
encore. Et d'ailleurs, il y a pas mal de médecins, quand tu en parles avec eux, ils sont un petit peu inquiets pour la situation des mains. Donc l'opération est souvent un petit peu le truc qu'on recule. Mais j'ai l'impression que
souvent, ça se termine pas très bien quand on prend pas la bonne décision et que les intérêts.
Tu veux que je joueur,
et par exemple,
moi je te répondrais bien.
Et par exemple, quand tu parles de Thauvin justement par rapport à ça, qui dit que finalement il avait peut-être pas la volonté de partir de Marseille, mais que il a peut-être pas pu répondre aux offres parce qu'il allait pas passer cette visite
évidemment
médicale.
Évidemment qu'il y a beaucoup de.
Mais bien sûr.
Évidemment qu'il y a aussi de ça. Bien sûr.
Il se fait opérer, il est pas.
La visite médicale, même s'il partait peut-être dans l'état de forme qu'il était actuellement, peut-être que Marseille aurait pu le vendre pour pouvoir acheter d'autres joueurs dans l'état. Enfin, justement, quand on connaît un peu la situation financière de Marseille, et que du coup ils ont pas pu parce qu'ils savaient que Thauvin n'allait pas passer aussi la visite médicale.
Et on joue pour répondre, coup, juste là. Si je peux répondre à Daniel sur le voilà. Effectivement, quand tu dis qu'il y a pas mal de joueurs, quand on sait qu'ils se font pas opérer, qu'ils repoussent et que derrière ça ils rechutent, on le sait. Tu fais pas attention à tous les joueurs qui se sont pas fait opérer, qui sont restés un mois et demi au repos et qui ont repris parce que ça paraît une blessure du coup anodine, et quand ils reprennent tu fais pas gaffe en fait. Moi je connais beaucoup de joueurs, notamment sur les pubalgies comme Verratti, où ça s'est très bien passé la première fois ou la deuxième fois quand ils ne se sont pas fait opérer, qu'ils ont récupéré, et où là
c'est aléatoire, c'est une décision, et tu sais jamais si c'est vraiment la bonne.
Si ça marche tu gagnes 6 mois. Si ça marche pas, parfois tu perds un an, il faut se faire opérer 3 mois après.
Mais le mieux, ce serait de se soigner complètement.
Alors,
mais il y a beaucoup d'impératifs, comme disait Laure.
Là, c'est une période, un timing.
Accueillons Mohamed, qui est supporter de l'OM. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Ah, tiens Mohamed, avant que tu prennes la parole, c'est la mi-temps handball, le score entre Nîmes et Montpellier. Julien.
2 buts d'avance en faveur des Nîmois, 12 à 10 à la mi-temps avec 3 buts de Mickaël Guigou.
Ah, tout à l'heure. Mohamed, comment est-ce qu'on joue sans Thauvin?
Comme depuis le début de la saison.
Mais en espérant qu'il n'y ait aucun arrière latéral qui se blesse.
Exactement.
Parce qu'on n'en a pas. Et le seul remplaçant qu'il y a, c'est Bounassar.
Qui joue milieu.
Qui doit du coup prendre la place de Thauvin. Mais si tu as un Sakai qui se blesse ou un Amavi qui se blesse, alors là, ça va être la dégringolade complète.
En joueur de côté, logiquement, il y a
Radonjić.
Il va être Radonjić.
Il a marqué un but avec la Serbie là.
Ah non, mais lui il est dans
l'effectif. C'est là qu'il va se révéler.
Il est dans l'effectif, c'est un des plus gros transferts de l'histoire du club. À un moment, il va falloir qu'il joue lui. Hein. Ouais.
S'il y a une bonne occasion pour le faire, c'est
à un moment, il va falloir le lancer lui. Hein.
Et d'ailleurs, t'as pas la garantie qu'il soit mauvais. Ça peut être une bonne surprise.
Il va falloir l'installer. Moi, personnellement, je pensais que Radonjić, c'était un joueur qui avait un sacré potentiel. Qui avait quelques problèmes avec Garcia. Enfin, moi, je le voyais comme ça, qu'il manquait de confiance et qu'il avait besoin de confiance dans son jeu, qu'on lui fasse confiance.
Ouais, ce que tu dis, c'est que Villas-Boas est arrivé et il lui a pas donné plus de confiance.
Sachant que son premier match, il a fait une bourde contre Francfort, si je dis pas de bêtises, avec la relance dans l'axe qui coûte l'égalisation et du coup. Il a pratiquement été mis à la cave directement dès la première saison. Et là, sur les premiers matchs qu'il fait en début de saison, c'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui a l'air technique, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque avec ce joueur. J'arrive pas à comprendre son jeu, sa façon de jouer.
Après,
on a l'impression qu'au bout deux accélérations, il a la bouche grande ouverte, qu'il cherche directement son second souffle. Enfin, c'est bizarre.
Sans passer par le premier, ouais.
Il avait plus l'habitude de jouer plutôt à gauche.
À gauche,
c'est ouais, à gauche, c'est ça, exactement.
Ça, c'est sûr, mais bon.
Ouais, là, après, tu peux le faire avec les moyens du bord.
Mais
après, tu lui dis, tu parlais de Liadji qui a fait quand même une belle préparation.
Voilà, les jeunes, voilà.
Mais on va pas revenir sur le Dortmund Project, OM Champions Project et toutes les bêtises qui ont été sorties depuis X années, sachant qu'il faut tout le contraire. Mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir penser aux jeunes, quoi. Il va peut-être falloir les lancer parce que Liadji joue à droite.
Bah, le truc, c'est pas de les lancer, c'est de savoir s'ils sont bons.
Je pense que c'est la meilleure option, sachant qu'il a fait une belle préparation, il a montré quelques belles choses. Mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir se dire qu'à un moment, le petit jeune, il va falloir lui donner du temps de jeu et le lancer, un petit peu comme ça a été fait avec Sabrol. Pour après aller chercher Rongier, bon, on revient pas sur la période qui a été prise en dehors de. Je trouve ça. Parce qu'au final, s'ils avaient pris Rongier le 31, parce qu'au final, ils ont pratiquement accepté, de ce que j'ai pu lire ou comprendre à peu de choses près, les termes de Kita, s'ils avaient pris Rongier le 31, il y aurait une option de rechange.
Bah oui, ouais, mais c'est vrai que c'est mine de rien.
Bah oui, exactement.
À l'époque, on avait dit, c'est vrai
pas grave, on avait dit.
Mais... Voilà. Et mine de rien, tu te reprends comme un boomerang.
Et j'étais intervenu sur ce jour-là où j'avais dit que c'était qu'ils allaient le payer, c'était une certitude qu'ils allaient le payer. On m'a dit non, c'est pas. Et au final, c'est typiquement ce qui est arrivé. C'est que ils le payent aujourd'hui. Et on se rend compte que
Faut qu'ils se fassent prêter un joueur par Monaco, ils en ont 150.
Mais ce club, il tourne à l'envers, quoi.
Monaco, il y a des joueurs là.
Ah, mais t'as pas le droit.
Bon, ah non, il est pas libre. Il est pas libre. Oui, donc
on
peut pas.
Donc à part Nassar, Eliadi et Radonjić, quand il joue à droite, qui a pas montré grand chose. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de blessures supplémentaires dans l'effectif et qu'il n'y ait aucun latéral qui se blesse.
Oui, parce que là, c'est Bounassar qui va retrouver le rôle de ses débuts, quoi.
Comme il a fait là.
Bah, il a plutôt été bon depuis le début, mais est-ce que voilà, t'es pas à l'abri non plus qu'il y ait une blessure, qu'il ait un coup de fatigue dans le turnover, ça peut être compliqué. Au moins, il apporte un peu de vitesse. Non, mais il apporte au moins de la vitesse et de la percussion, parce que sinon, ça manque de vitesse sur le front d'attaque. On voit un Dimitri Payet sur le côté gauche.
Venu arrière droit, je l'ai recruté.
Ou alors, Villas-Boas, faut qu'il change de système aussi.
Comme joueur de haut niveau, mais attaquant de côté.
Moi, c'est comme Daniel. Honnêtement, quand j'ai vu le latéral droit, j'ai trouvé que c'était un bon joueur. C'est un joueur
attaquant de côté, pour moi, c'est quelque chose.
Mais offensivement, moi je le préfère derrière.
Bah aujourd'hui, c'est un joueur, il est là par défaut.
J'ai commencé à imaginer Bounassar à arrière droit et Saka y basculer à gauche pour sortir à Mavi là d'un coup.
Mais s'il y en a un des deux qui se blesse, Saka ou à Mavi, comment il va rester qui?
Tu mets un autre joueur devant.
Sachant que là, il va y avoir, si je dis pas de bêtises, en très peu de temps, Monaco, Lyon, Marseille. Lyon et Lille.
Bah les mecs ils vont pas se blesser, ils ont un match par semaine à jouer, ça va aller quand même. Un match par semaine, normalement c'est les saisons où t'as le moins de blessés, ou alors c'est que.
Non, là c'est le calendrier de Marseille, c'est Monaco, Montpellier, Dijon, Rennes.
Ouais, et après c'est la réception de Lyon et Lille, je crois, quelque chose comme ça.
Ça va, c'est dans.
Ouais, c'est plus loin, c'est en octobre, en novembre, début novembre.
Faut assurer un maximum de points sur ces quelques matchs. Après, on va pas. Enfin, moi cette année, la Ligue des Champions, non merci. Si on se qualifie en Europa League, je pense que ce serait un miracle. Faut arrêter les beaux discours et de se voir plus beau que ce qu'on est. Ça va être.
Et dans les solutions de rechange dont on parlait tout à l'heure, là, par exemple, Ben Arfa, Menez, tu verrais ça comment, toi?
Ben Arfa, on a vu ce que ça a donné l'année dernière. Même si c'est.
Imaginez Ben Arfa à l'OM, sur la pelouse en même temps que Payet.
Il a fait des choses, son match
avec les Lyon
au Vélodrome, c'était magnifique.
C'est
un intermittent du spectacle.
Ouais.
Menez, ça fait combien d'années qu'on ne l'a pas vu jouer à un haut niveau?
Il paraît qu'il a joué à Bordeaux. Je n'ai pas souvenir.
Et au Mexique.
À Bordeaux, il y avait eu le fameux épisode de l'oreille à Lorient.
C'est vrai.
Je me souvenais même pas qu'il avait joué à Bordeaux.
Eh ben si.
C'est comme moi.
Personne s'en souvient.
J'en ai des vagues souvenirs, mais franchement, c'est pareil.
Il avait dû mettre un but assez rapidement quand il est arrivé en partant de loin, un but un peu à la Menez, et puis après c'est
joueur, mais qui a réussi à.
Il me semble.
Avec Paris, ouais, mais pas avec Bordeaux.
Les supporters bordelais vont s'en souvenir, ils m'ont envoyé. Est-ce que je dis une connerie?
Merci à toi, Mohamed, en tout cas.
Ciao, Mohamed.
Merci, Mohamed.
Bordeaux gagne un match où Menez est bon.
Salut, Mohamed, ouais. À bientôt.
Grandes enjambées, puis après fini.
Il était à Bordeaux lors de la saison 2016-2017, Jérémy Menez. Je veux dire, il a quand même joué 26 matchs, mine de rien. Et il a marqué 3 buts.
Ouais, mais dans ces trois-là, je pense qu'il y en a un qui est pas mal. Et puis
après... Il a joué 31 matchs en tout, il a marqué 3 buts.
Ah, c'est fou quand même qu'on s'en rappelle pas énormément.
Pareil que Caramo, il est plus du tout dans la liste des chômeurs. Hein.
Ah bon? C'est l'UNFP, c'est pas à jour.
Les poules et les chapeaux, c'est. Pas non
plus. Ah bon?
Non.
Bah, écoute, liste erronée.
J'invite les gens à aller sur unfp.fr, c'est la liste que je viens de consulter.
Pareil qu'il est parti en Italie.
Non, mais c'est-à-dire que. L'UNFP, il faut peut-être qu'ils se mettent à jour alors.
Bon, bref. Oui, bon, ils ont pas que ça à faire, l'UNFP.
Bah quoi, ça fait partie de leur tâche quand même de retrouver du boulot aux joueurs. Bon, tiens, on va conclure avec Hicham. Salut Hicham.
Ouais, salut. Salut à
tous. Bonsoir Hicham.
Salut Hicham. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire de Thauvin, toi?
Ben, j'en pense qu'il est temps de faire jouer. Bon, déjà, on a comme titulaire Sarr, on n'a pas à se plaindre. Il y a eu pire à l'époque. Et puis,
il y
a eu mieux parfois aussi à l'époque.
Oui, il y a eu mieux qui? Sur les côtés. Donc, franchement,
ça dépend de quelle époque tu parles, mais il y a eu des époques pires, il y a eu des époques mieux quand même.
Ah, je ne vais pas te parler de
Chris Waddle.
C'est sûr que. Voilà. Waddle, c'est sûr que. Si tu commences à me parler de ça, c'est sûr que. Mais non, mais là, depuis quelques années, on n'a pas grand-chose hein, sur les côtés. Mis à part Thauvin qui est titulaire incontestable, et même quand il est nul, il est titulaire. Ben, voilà quoi. Maintenant, il y a Bounassar, ben, on fait avec. C'est tout.
Bon, tu es fataliste, quoi.
Ouais, ils sont fatalistes, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, de manière, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te répondent, les supporters, là? Ils vont pas te sortir un joueur du chapeau, hein. On les connaît.
C'est sûr.
Ah non, sinon, t'as le jeune Liadji qui je l'ai vu jouer, je le vois jouer des fois avec la CFA. Et franchement, il a du ballon. Mais le problème avec lui, c'est tant qu'il n'a pas signé son contrat, ils ne le feront pas jouer. C'est ça le problème avec lui.
Ah oui, il y a un problème avec lui. Lui, il ne veut pas. Ou ça lui court. Ça lui... Ouais, ouais, c'est vrai.
Hicham, merci à
tant
toi.
Tant qu'ils ne font pas signer son contrat, ils ne le feront pas jouer. Ou sinon, t'as le petit jeune Aké qui a signé son contrat pro en début de saison. Et lui, il a déjà fait 4 matchs avec la CFA. Et la poule de CFA dans le Sud, il y a quand même du niveau. Et il a quand même mis 6 buts en 4 matchs. Il peut jouer sur les côtés, ça peut être une solution.
Ben voilà, donc il y a quelques jeunes potentiels à Marseille, mais enfin les jeunes, c'est toujours pareil, c'est un pari. Hicham, merci à toi, salut.
Ciao Hicham. Bonne soirée.
Bonne soirée. Caramo, effectivement, a signé à Parme.
Ah oui, non, mais c'est vrai. Ouais.
Voilà. Donc il appartient toujours à l'Inter, d'ailleurs, Caramo. Je pense qu'il foutait sur la liste des. Ouais, sur la liste de l'UNFP. Qu'est-ce qu'il fout, l'UNFP?
Bon, bref. C'est le même que toi.
Ouais, c'est... Ou c'était un homonyme.
Bah, c'est le syndicaliste, c'est Pierre.
C'est Pierre et Sylvain Castendutch. Et co-président,
ils sont nombreux maintenant.
Co-président de l'UFP. Mmh. Ah oui.
Il marche plus son ordi, visiblement.
Oui, il y a un problème. Dans quelques instants, on est de retour. On va changer de sujet complètement, parce qu'on voulait tout de même clôturer cette semaine internationale, que vous adorez tous, par un petit tour d'horizon quand même, à quelques mois de l'Euro, des forces en présence, parce qu'on a vu quand même des sélections qui étaient fortes, d'autres un peu décevantes. Petite photographie générale et Laure a un avis clair sur l'équipe de France, ce sera dans quelques instants, avant ensuite à 22h de passer à notre autre gros sujet du soir, à savoir la rencontre à la Ligue aujourd'hui entre les ultras et les associations qui luttent contre l'homophobie, ce sera tout à l'heure. A tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Laure Le Panier est là, Pierre Ducrot, Daniel Riolo, l'after jusqu'à minuit, bien sûr, avec nos drôles de dames dans quelques instants. Je signale juste que le match est reparti entre Nîmes et Montpellier au handball. On ira voir Julien Landry, et non pas Julien Laurence. Julien Laurence, c'est pas trop spécialiste du handball, je crois pas.
Champion d'Angleterre là-bas.
Angleterre, handball,
Il joue pas, il joue très peu, je pense.
Il y a des pays où le handball existe carrément pas. En Italie, le handball, on sait pas ce que c'est.
En Italie? Ah ouais?
Non, il n'y a pas de hand en Italie. Alors qu'en Espagne, ils sont très forts.
Alors qu'en Espagne, ouais. C'est étonnant quand même.
Ouais, il faudrait savoir pourquoi.
Des sports comme ça.
Le ballon de mano en Espagne, le ballon main.
Le basket, ils aiment bien en Italie.
Ouais. Oui, ça oui.
Ah oui. Grande culture. C'est un sport, c'est un sport de.
Grande culture de basket, ouais.
C'est marrant que le hand.
Ouais, c'est pas bizarre.
Julien Laurence, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut mon Julien.
Tu confirmes le handball, c'est pas ton truc?
Ouais, pas du tout chez nous, pas du tout. Mais c'est vrai, c'est marrant. Il y a comme des sports qui se prennent dans certains pays.
Le volleyball, culture énorme. Le water polo, énorme.
Bah non, mais en Angleterre, tu as ni handball, ni volley, ni basket. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Après, non, basket, le fait, avec le temps qu'il fait, mon Jules, les sports enfermés comme ça, c'est dommage.
Non, mais c'est aussi. C'est pas la raison, mais c'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup de choses se concentrent autour du foot, qui est un sport plus que national.
Mais les Anglais ont un truc qu'on ne
voit pas.
Le cricket, monsieur.
Ah, c'est vrai.
Tout à fait, ça en revanche, oui. Et puis les Anglais ont remporté la Coupe du Monde il y a quelques semaines. Donc,
le seul problème du cricket, c'est que personne ne comprend les règles.
Ben si, eux, et les Pakistanais, les Indiens.
Voilà, les pays du Commonwealth. Non, les pays du Commonwealth. Mais un jour, je vous expliquerai. Un jour, quand on aura plus de temps, je vous expliquerai. Mais juste pour finir sur les autres sports co qui ne sont pas bien implantés ici, la façon aussi dont les fédérations de sport anglaises récupèrent de l'argent pour financer donc pour leur budget, etc., c'est fait par rapport aux médailles potentielles qu'ils pourraient remporter aux Jeux Olympiques. C'est comme ça que ça marche ici. Donc, par exemple, un sport qui a beaucoup de chance, comme le cyclisme.
Donc, c'est l'élite avant tout, quoi.
Exactement. Donc les sports qui ils sont sûrs de rien leur apporter du tout, eux ils touchent pas un centime. En revanche, les gros sports comme le cyclisme, là en revanche, eux ils ont un très très gros budget.
Ouais, donc c'est un cercle vicieux, parce que plus t'as de budget, plus tu veux remporter.
Exactement. Donc autant dire que jamais en volleyball, même si un jour ils disaient tiens, si on mettait 20 millions sur le volley, non, ça c'est impossible, ça arrivera jamais.
Et c'est pour ça que les fléchettes marchent mieux, quoi.
Mais c'est pas olympique.
C'est dommage. Pas encore. C'est olympique en Angleterre.
Mais les fléchettes en Angleterre, ça va. C'est dans une main et dans l'autre main, il y a une chope.
Il y a la bière. Ouais. Ah, forcément.
Exactement. Et c'est dans un bar.
Ah oui.
Et Simone Rovera, lui, qui ne joue pas aux fléchettes ni au handball en Italie. Salut Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir. Mais nous, on a l'escrime, on est très fort.
Salut Simone.
Oui, je parlais des sports courts tout à l'heure. J'allais pas faire un inventaire de tous les sports. J'ai dit water polo.
Tu as par équipe.
Volley, basket.
Ouais, water polo, c'est légendaire ici. C'est... Mm.
c'est incroyable. Les meilleurs waterpolo, excusez-moi, c'est les Croates, les Serbes et les Monténégrins. C'est pas les Italiens.
Ah, ça a longtemps été l'Italie. Ben, j'oublie la Hongrie, qui est une historique du waterpolo, mais
l'Italie, ça reste énorme.
Bon, messieurs, si vous êtes là, c'est parce qu'on voulait clôturer cette période internationale par une petite photographie des forces en présence. Alors, on a vu notre équipe de France briller. Pas contre des grosses nations, certes. On a vu l'Allemagne, les Pays-Bas, tout ça. Donc, on va voir un peu ce que vous en pensez. On est à quelques mois maintenant de l'Euro 2020. On commence à avoir une idée des qualifiés. Bon, globalement, à peu près tout le monde. Hein, tout le monde va y être. Il ne va pas y avoir de grosses nations qui manquent. Attention, les Pays-Bas, quand même, il faut qu'ils se méfient. Fasse pas n'importe quoi.
Quand même, merde.
Ouais, c'est quand même une belle équipe.
Trois favoris pour l'Euro, si tu dis qu'en plus ils vont pas y aller.
Ah, mais je dis pas qu'ils vont pas y aller, mais ils sont pas. Tu vois, il faut qu'ils confirment.
Ils vont pas passer avec l'Allemagne.
On va démarrer par la
Gambie.
Est-ce que Laure a un avis sur l'équipe de France?
Ouais, c'était par rapport à l'ensemble des matchs qu'on a pu voir lors de cette semaine internationale. Moi, j'ai un avis tranché sur l'équipe de France, et je pense qu'aujourd'hui, elle a le plus bel effectif. Le plus bel effectif, j'entends malgré beaucoup d'absences et pas des moindres. On avait Mbappé, Pogba, Kanté, Umtiti, Ndombele. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs absents. On a vu d'autres joueurs émerger, en l'occurrence Coman, l'anglais. Ce qui permet de dire qu'on a un réservoir de joueurs assez conséquent. On a aussi beaucoup de joueurs qui deviennent des titulaires indiscutables dans des grands clubs européens. Varane au Real, on a aussi tous les joueurs qui évoluent au Bayern de Munich. Et quand je regarde un petit peu les autres clubs, les autres nations, alors j'ai été séduite par l'attaque de notamment du Portugal avec Ronaldo, João Félix et Bernardo Silva, vraiment une attaque de feu. Mais je reste un petit peu mesurée par rapport à l'aspect défensif de cette équipe où je la trouve un petit peu friable. Du côté des Pays-Bas, il y a une belle génération, mais c'est encore assez jeune. L'Allemagne, je trouve que c'est une équipe en reconstruction. Il y a aussi beaucoup de carences. L'Angleterre, c'est un peu comme le Portugal, plutôt séduite sur le plan offensif. Et là, on a vu notamment qu'ils ont encaissé pas mal de buts sur le plan défensif. Ils me rassurent pas tellement. Donc voilà, je pense que l'équipe de France a pour le moment, je pense, le meilleur effectif. Alors maintenant, avoir le meilleur effectif, c'est un fait. Utiliser au mieux les joueurs, c'en est un autre. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'il y a des bonnes choses à faire avec cette équipe de France et que je pense que ça peut être aussi une force en puissance. Elle est capable d'aller chercher, en tout cas, ce titre de champion d'Europe.
Avant qu'on aille prendre les avis de Simonet et Julien, est-ce que vous êtes d'accord avec Laure, les gars?
Oui, que la France soit un des plus bels effectifs d'Europe, oui, complètement. C'est pas, voilà, on n'est pas pour rien champion du monde. Et...
Laure, dis le plus beau.
Moi sur le papier en tout cas, je pense.
Oui oui. Ouais, probablement, faudrait comparer après on sait très bien que c'est pas toujours
c'est pour ça que je te dis ça, le fait d'avoir le meilleur effectif ne dit pas forcément que tu vas être le meilleur tu vas produire le meilleur jeu, tu vas être le plus performant, ça c'est autre chose.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement jeune quand même, en tout cas t'en as pour un petit moment à avoir des bons joueurs dans les meilleurs clubs européens. Après oui, est-ce que c'est ça qui te permettra d'aller au bout? Pas forcément, mais oui, je suis d'accord avec Laure, on a un des plus bels effectifs si ce n'est le plus beau en Europe, ouais, effectivement.
Bon. Moi, j'en ai parlé hier soir. Effectivement, je mettrais la France dans les favoris, c'est sûr, à l'Euro, parce que le titre de champion du monde a donné beaucoup de confiance, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent à maturité et qui, alors que ce n'était pas complètement le cas il y a encore deux ans, là, sont bons dans des gros clubs. Les voyants sont tous plutôt au vert. Maintenant, la réserve de Pierre, elle est logique. La France est loin d'être la plus belle en 2018.
Et c'est pour ça.
Elle termine championne, alors qu'en favori, on citait l'Allemagne qui s'est plantée, le Brésil qui n'a pas réussi à trouver la faille contre la Belgique et qui avait pourtant une très très belle équipe, l'Espagne qui s'est fait plomber sur une séance de pénaux dans un huitième délirant contre la Russie.
On en parlera avec Simonet, mais moi, une équipe comme l'Italie.
Elle est intéressante, elle est jeune, mais elle est intéressante.
Ah ouais, puis c'est à craindre, quoi. C'est ce genre d'équipe est à craindre.
Il y a beaucoup d'équipes à surveiller. Après, sur une compétition comme ça, tournoi, et on oublie un peu trop que c'est pas un championnat, c'est vraiment du tournoi. Il y a le petit championnat au début, là, pour sortir de la poule. Mais après, sur les matchs couperets, surtout là maintenant à l'Euro, on est à 24 équipes maintenant.
Oui.
Donc t'as un huitième de finale, le chemin est un petit peu plus long qu'il a pu l'être dans le passé où c'était plus condensé. Moi je trouve qu'au contraire ce sera très ouvert. Ça m'empêche pas de penser que la France a évidemment un rôle à jouer et qu'elle peut être mise dans les trois favoris. Mais je pense que c'est plus ouvert qu'on le pense. Et moi je pense au contraire qu'il y a énormément de nations qui sont en quête de rachat, qui sont également en progression. L'Italie, l'Angleterre. L'Allemagne plaît pas à grand monde.
Ouais, mais bon. Je sais pas pourquoi, mais moi je la trouve quand même intéressante.
Ouais, je trouve friable quand même défensivement. Je la trouve parfois un peu lourde.
Possible, mais les Pays-Bas, je pense, peuvent faire mal à beaucoup de gens et on l'a vu, ils ont fait mal à la France récemment. C'était un très
bon
match.
Ouais, le Portugal aussi, quand même.
Le Portugal, je trouve qu'il y a peut-être plus d'équipes qui ont l'air fortes qu'à la dernière Coupe du Monde et que lors du dernier Euro.
Et après, juste pour rejoindre sur l'équipe de France aussi, c'est pareil. Je pense que l'équipe de France, ça pourra pas être championne d'Europe comme elle l'a été avec, à la Coupe du Monde. Il faudra proposer autre chose pour surprendre l'adversaire. Parce que tu pourras pas. Voilà.
Peut-être qu'ils sont en train.
Ouais, alors, enfin, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'ils pourraient pas recommencer comme ça?
Simonet, ton avis à toi?
Bah, tu vas être
c'est pas ce qui nous plaît, mais
beaucoup attendu.
Alors, ouais, mais avec les joueurs que t'as devant.
Non, mais tu risques d'avoir des équipes qui ne se livrent plus parce que tu sais la qualité de contre et tu sais justement la qualité du jeu défensif. Ça peut donner des matchs ultra fermés. Tu passes et tu peux passer à la porte après une séance péno en huitième.
Exactement.
En
quart,
Simonet.
Bah, je suis d'accord sur une chose, mais je vais faire grandir un peu le discours, c'est-à-dire la France.
Excuse-nous, Simonet, d'avoir un discours un peu petit, un peu étroit.
Agrandir, on peut dire
élargir.
Parce que on parle d'effectifs. Pour moi, la France a les plus beau réservoir des joueurs, peut-être c'est ça, c'est-à-dire même au-delà des 23, si on doit choisir 40, 50 joueurs, la France a bien meilleur choix que beaucoup d'autres pays, même des grands pays comme aujourd'hui peut être l'Espagne ou l'Allemagne. Après, sur les 23, c'est un peu moins important cette gap avec les autres. Et sur les 11, là, je suis pas d'accord pour dire. Je trouve qu'il y a des 11 qui sont meilleurs de la France. Mais après, la France est championne du monde. Donc, aucune débat. Pour moi, c'est pas entre les favoris.
Les 11 qui sont meilleurs, tu penses à qui?
Quelle équipe, Simonet?
Moi, je trouve la Belgique meilleure.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la Belgique.
Moi, j'ai les trucs très belles.
C'est vrai qu'on a oublié la Belgique et la Belgique, c'est vrai qu'ils ont un bel effectif aussi.
Ouais, il y a un bel effectif,
c'est
magnifique, mais
pas bon. Il y a 9 comme Lukaku, un 10 comme Hazard, t'as des Mertens, t'as des latéraux très importants, très bon milieu, un super gardien. Voilà, mais après, sur les 23, peut-être la France a plus de choix, mais c'est vrai qu'on gagne les tournois en 23. Mais un match, tu le gagnes en 11-14. Et sur là, pour moi, il y a moins de distance.
On va voir l'avis de Julien dans quelques instants au 32-16. On continue le débat avec vous, bien sûr. Julien Laurence n'est pas au 32-16, mais on a son avis tout de suite dans quelques instants. Et au 32-16, on vous attend pour réagir, bien sûr. Un autre Julien, Landry, le score au handball, s'il te plaît, Nîmes-Montpellier.
Ouais, Montpellier a pris pour la première fois de la partie l'avantage au score 15-14 pour les hommes de Patrice Canaillet. Et peut-être 15-16-14, même s'il y a la belle parade de Rémi Débonné. On est reparti depuis 10 minutes dans cette deuxième période.
A tout de suite dans l'after.
RMC, 21h30. L'after foot, Gilbert
Bribois. Avec Laurent Payer, Pierre Ducrot, Daniel Riolo, plus Simonet Rovira. Julien Laurence, on fait le point sur nos sélections européennes là, à quelques mois de l'Euro. Julien Laurence n'a pas encore pu s'exprimer. Julien, ton avis à toi sur qui est fort, qui est pas fort. Est-ce que tu es d'accord avec Laure? Bref, on veut savoir ce que t'en penses.
Alors déjà, sachez que chez les bookmakers anglais, les Français sont favoris pour cet Euro, avec une très très belle cote. D'ailleurs, 4 contre 1, je crois, pour le titre final à l'Euro. Donc,
qui est juste derrière?
Partage l'avis de Laure. Derrière, on a les Anglais, mais ça, c'est un petit peu par patriotisme, j'imagine, qui sont à 6 contre 1, je crois.
C'est pas forcément bidon, hein. Enfin, je sais pas.
Ouais, bah, non, avec leur dernière Coupe du Monde, c'est possible, hein.
Oui.
Exactement, et c'est vrai qu'ils ont une certaine dynamique positive en tout cas en ce moment avec la Ligue des Nations et la dernière Coupe du Monde.
Est-ce qu'ils se voient un peu beaux?
Alors la grande différence avec avant,
ils estiment avoir une belle sélection, tout ça.
Alors ils estiment avoir une belle sélection et avoir leur chance. Ce qui est différent, je trouve, par rapport aux années précédentes, c'est qu'ils s'enflamment beaucoup moins lors des qualifications. Avant, c'était « Oh, c'est génial, regardez ce qu'on fait en qualification, on va être bon pendant la compétition, peu importe si c'est un Euro ou une Coupe du Monde après ». Et là, ils se ramassaient bien la gueule comme il fallait dans la compétition. Maintenant, ils disent, bah voilà, c'est normal dans un groupe dans lequel on est en ce moment, par exemple, on va faire un sans faute, on va faire que des victoires, et je pense qu'ils le feront. En revanche,
Julien, faisons un petit bilan comme.
Moi, j'allais te parler justement, Julien, hier, par rapport aux. Ils ont quand même encaissé 3 buts face au Kosovo.
Mais non, mais moi, je voulais faire, c'est. J'étais en train de dire, il y a quand même, je trouve, un paquet de bons joueurs.
Oui, il y a des bons joueurs.
Je parlais des bons joueurs dans l'équipe de France. Je trouve que là, entre la génération un peu nouvelle, les jeunes, les. Poste important où tu as des bons joueurs un peu partout, genre leurs attaquants sont bons, ils peuvent monter une bonne défense centrale. Comment ils ont joué au milieu là récemment, Julien?
Rice, Barclay.
Ouais. Voilà, donc Rice, c'est leur sentinelle à eux, ce jeune joueur de West Ham, pour ceux qui connaissent pas, qui était d'abord qui a joué pour la République d'Irlande avant de changer de passer chez l'ennemi anglais, on va dire, qui est une bonne sentinelle, qui joue à ce poste-là déjà avec West Ham, qui est un très bon jeune joueur, mais qui est encore jeune, qui manque encore d'expérience, par exemple, qui n'a jamais joué une Coupe d'Europe, que ce soit une Europa League ou une Ligue des Champions. Donc, à un moment, peut-être que dans les grandes compétitions, en quart de finale, en demi-finale, ce sera peut-être un petit peu compliqué pour lui, mais en tout cas, ils croient beaucoup en lui. Et après, Jordan Anderson sûrement sera là avec Ross Barkley qui sera un peu plus le joueur un peu plus créatif qui donc c'est ces trois là qui ont joué les deux derniers matchs. Il y a un problème d'équilibre un petit peu au milieu de terrain et avec la défense anglaise en ce moment chez Southgate, c'est ce qu'on a vu un petit peu hier par exemple où c'était un petit peu journée porte ouverte
exactement c'est pour ça
en seconde période au milieu de terrain où le pauvre Declan Rice était un petit peu trop tout seul, donc chercher peut-être un autre profil un peu plus défensif pour jouer avec lui, dire à Anderson de jouer plus défensif et d'aller un petit peu moins vers l'avant. Hier il avait tendance à aller beaucoup vers l'avant, peut-être un petit peu trop. Il y a un équilibre à trouver un petit peu, mais c'est vrai qu'offensivement il y a beaucoup de talent. Défensivement, comme on l'a vu hier, il y a encore quelques réglages à faire.
Le troisième des bookmakers après la France et l'Angleterre, c'est qui?
C'est la Belgique, donc encore une fois, qui rejoint un petit peu ce que Simone dit tout à l'heure et ce qu'on dit sur le plateau. Et en quatrième place, l'Espagne.
D'accord.
La Belgique qui a toujours donc, la même équipe.
Oui.
En gros, ils reviennent avec les mêmes.
Mais est-ce que l'Euro 2016 n'était peut-être pas la grande chance pour eux?
Tu dis Simone, pardon, vas-y.
Non, je disais qu'il y a Ferreiro Carrasco qui est un peu disparu des radars. T'as un peu plus Castagne.
Oui, la base, on est sur la même.
Plus ou moins.
Tu dis rien de l'Italie, toi.
L'Italie ne doit pas être entre les favoris. Ça m'étonnerait si c'est pas au moins le 7e, 8e, juste parce qu'elle sera là et c'est déjà la belle info.
Oui, après, c'est déjà mieux que la dernière fois, oui.
Voilà. Après.
Et tu crois pas à quelque chose de plus, hein, autre chose?
Non, moi, je suis convaincu que l'Italie va faire une très bonne Euro.
Ouais, moi aussi.
Mais aujourd'hui, on peut pas la mettre entre les favoris.
Non, bien sûr.
C'est un outsider.
Non, bien sûr, mais moi, je crains beaucoup cette Italie. Je suis persuadé qu'elle va en faire chuter plus d'un.
Oui, tu verras. Moi, je suis convaincu que c'est une Italie qui a trouvé sa route, qui a trouvé une route qui est différente depuis celle qu'on avait vue. La dernière belle Italie, c'est celle des Conte. Aujourd'hui, c'est une Italie qui est vraiment qui joue d'une autre façon. C'est totalement différent. C'est une équipe qui cherche des jeux au ballon. Et c'est un peu étrange dans l'histoire plus récente de l'Italie. Ça fait 10 ans presque qu'on n'a pas une équipe joueuse depuis Prandelli 2012. Donc, et on a des joueurs pour jouer au ballon. Et je trouve que si quelques jeunes mourraient assez pour devenir pas seulement protagonistes, mais aussi un peu plus leaders, et je parle des joueurs offensifs, comme Chiesa, comme Belotti, comme Bernardes, qui n'arrive même pas à trouver sa place à la Juve, elle a joué 7 minutes.
C'est un peu des jeunes éternels. On a l'impression qu'ils sont toujours jeunes et qu'ils restent jeunes, qu'ils ont du mal à grandir, en fait.
Par hasard, mais avec l'aide des entraîneurs de la Serie A.
C'est comme Garantie, on a toujours l'impression qu'il a 20 ans.
Ouais. Par contre, il y a d'autres jeunes joueurs qui arrivent, Barella, Sensi.
Oui, c'est ça. Mais si Barella arrive à s'imposer à l'Inter, si Sensi, il a déjà fait 2 matchs, il est très très bon avec l'Inter, mais passer de Sassuolo à l'Inter, c'est changer des dimensions. S'il maintient, même en Ligue des Champions, cette allure, ça peut être important pour la sélection. C'est ça. Nous, on a des très bons joueurs, je trouve, aujourd'hui, mais des joueurs qui sont jamais été habitués à jouer au plus haut niveau, l'Europe, la Ligue des Champions, ouais. Et la sélection. On partait de tellement loin que chaque résultat a été félicité comme une belle victoire. C'est oui, 6 victoires, mais notre groupe est vraiment faible. Sincèrement, faire 6 victoires, c'est bien, mais faut même pas dire c'est extraordinaire. Mais on a cette peur qui nous reste dans les dos depuis l'élimination avant la Coupe du Monde, qui fait en sorte que on se dit, on n'a pas envie d'être trop, de nous voir trop beaux, mais de notre côté, on a eu tellement mal dans les dernières années que.
C'est ce que j'allais dire, Simonet. C'est un groupe faible, mais c'est un groupe duquel tu serais peut-être pas, ou en tout cas, tu aurais eu des difficultés il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Merci, messieurs, en tout cas, pour ce petit. En tout cas, ça promet un euro quand même sympa. Parce que c'est clair. Là, ça va être tout
le dernier n'avait pas été extraordinaire. Hein. Il y a eu pas mal de matchs.
C'était l'euro des surprises. Rappelez-vous du Pays de Galles en demi-finale, quand même. On s'y attendait pas trop.
Pour le coup, le Pays de Galles, ça avait été une bonne surprise parce que. C'est une équipe intéressante. Certes, il y avait trois joueurs qui s'étaient détachés, mais à chaque fois, leur match avait été très intéressant à suivre.
Donc, à la limite, ouais, c'est vrai que tous les gros étaient du même côté de tableau aussi dans l'Euro en France. Ouais. C'est un peu ça, l'histoire. Vrai. Merci Simonet, merci Julien.
Ciao.
Ciao,
bonne mission, ciao. Le score à Nîmes, Nîmes-Montpellier, le handball, Julien Landry.
10 minutes encore à jouer au Parnasse, plus 2 pour les Montpellier, 21-19.
Ah, ils jouent à Montparnasse ?
Oui, à Montparnasse.
Ouais. Ils sont pas loin de vous, vous pouvez y aller si vous voulez.
À Nîmes.
Dans la rue des Crêperies, là, et tout.
Et à côté du stade des Costières, d'ailleurs.
Oui, juste
est-ce
en face.
Est-ce vendent les mêmes chips ?
Non, au Parnasse, c'est un peu plus classe qu'au Costières. Mais au Costières, ça a changé, Daniel. Ça fait longtemps que t'es pas venu, c'était l'époque de la Ligue 2.
La vieille époque.
C'est mieux maintenant.
Ouais. Bientôt, il va y avoir un nouveau stade, Amine.
Oui. Si tu croises mon ami Christophe Chet, tu le salues de ma part.
J'y manquerai pas.
Il vient pour le hand aussi ou pas ?
Oui, il vient.
Bon, voilà. Il nous avait envoyé...
journaliste de la télé locale,
il peut remettre ça quand il veut.
Et il y avait les chips aussi, dans la boîte qu'il nous avait envoyé.
J'ai oublié.
Il y avait les chips des Costières.
C'est bien pour décrire le journaliste, que tu ne dis pas, mais il fait ci, il fait ça, il a commenté tel match. Non, c'est celui qui nous envoie les saucissons et le vin. Quoi.
Laure, merci beaucoup.
Merci.
À très vite, tu reviens régulièrement dans l'after, bien sûr.
Bon,
dans un instant, Jérôme Rotten nous rejoint et on va parler avec Pierre Barthélémy, avocat de multiples groupes de supporters de la rencontre du jour à la Ligue. Et à tout de suite dans l'after.
RMC, 21h30.
L'after foot.
The sun gently fell below the horizon. Rays of pure gold filled the sky, illuminating the towering structures of the London skyline. What else could Jane do but gaze in awe? She was but a silhouette upon a hill, wrapped up in a spectacle so perfect, no words, oil paintings, or smartphone filters could do it justice. She savored it. Before hopping back on her bike and riding off, she had to finish her commute home. Walk, cycle, discover. To the Mayor of London and TfL, every journey matters.